Bonjour Yann Larue,
Bonjour.
bienvenue chez Dounia Reçoit, émission donc littéraire de la Tribune des Vagabonds du Rêve. Donc je te reçois aujourd'hui à plusieurs titres en fait en tant qu'autrice de littérature de l'imaginaire et en tant que peintre, et tu nous diras en quoi l'imaginaire joue sur
Sur
ta
les deux
peinture,
tableaux,
ta
c'est le cas de le
création.
dire.
Voilà. Donc, je vais énumérer un petit peu ce que j'ai pu glaner sur les différentes bios que j'ai pu trouver. Donc, tu es autrice, bien sûr. Tu es aussi bien novelliste que romancière. Tu es peintre. Tu es enseignante et chercheuse en sciences humaines.
Retraité, retraité.
Retraitée, mais enfin, je crois qu'un enseignant reste un enseignant toute sa
Prof
vie.
un jour, prof toujours.
Toujours. Tu étais à la Sorbonne Nord. Alors, je pense que ça a évolué parce qu'elle ne dit pas grand-chose. Sorbonne Nord,
Non, non,
c'est depuis.
c'était le nouveau nom de Villetaneuse, la riante cité. Donc j'étais à la fac de Villetaneuse et Paris 13, ça s'appelait, mais les gens croyant que c'était le 13e arrondissement, ils ont changé, ils ont appelé ça Paris cité, Sorbonne, voilà. Donc c'est encore moins clair.
Oui, d'accord. Après, Villetaneuse, ça, à la limite, ça ressemble plus à tes travaux, peut-être, que la Sorbonne elle-même,
Tu
sans vouloir
m'étonnes.
être méchante. Voilà, où moi, j'ai fait mes études, enfin, la vieille. Tu es donc, tu es aussi, donc, on a parlé de ça, tu as écrit, donc, beaucoup, tu as écrit des essais
Oui.
sur l'art, la littérature, beaucoup sur le féminisme.
Oui, surtout.
Et puis, tu nous en parleras un petit peu parce que dans ta notice, j'ai trouvé que tu étais aussi créatrice de bijoux, ce qui est un peu étonnant. Donc, voilà. Donc, est-ce que tu peux t'introduire comme tu veux pour nos lecteurs?
Alors, je suis retraitée, effectivement. Je suis une vieille femme non binaire. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Et ben, effectivement, bon, ben, tout ce que tu as dit, c'est ça. Donc, j'ai écrit pas mal d'essais, beaucoup de nouvelles, pas mal de romans aussi. Certains publiés en Belgique sous un faux nom et d'autres publiés en France sous mon vrai nom. Et enfin, quoique le prénom, je l'ai changé pour lui donner un look un peu non binaire. Donc, le prénom, c'est Yann. C'est mon prénom officiel. Il a un tréma sur le i. Que c'est mon amie Magali Nechtergal qui a inventé le tréma sur le i, de façon à ce que ça fasse pas lame, L-A-M, ça fait Yann du coup, et c'est peut-être en hommage à, je sais pas, tous les Yann non binaires de la création. Non, non, bon, pour le dire clairement et simplement, donc j'ai écrit des nouvelles, des essais, pas mal de romans aussi, principalement La Vestale du Calyx à l'Atalante et La Fille Geek aux éditions défuntes, hélas, du Vilain, donc introuvable le bouquin car les éditions sont défuntes. Et le second était un roman graphique qui devait être publié en trois couleurs. C'était compliqué techniquement. Il a été publié sous forme de différentes typographies afin de distinguer les systèmes, les époques, les groupes de personnages qui s'entremêlent et qui finissent naturellement par se retrouver. Sinon, effectivement, je suis créatrice de bijoux parce que j'habitais dans le quartier des bijoux et ça m'a donné envie d'en faire. C'est pas plus compliqué que ça. Et je suis peintre parce que depuis l'âge de 11 ans, je fais de la peinture. Et depuis quelques années, ça décolle un peu, si on veut. J'ai fait des expositions un peu plus significatives que par le passé, mais j'en ai toujours fait toute ma vie. J'ai toujours été travailleuse de la semaine et peintre du dimanche, si on veut, et peintre des vacances. Et puis à présent, ben, je peux m'y consacrer entièrement, ainsi qu'à d'autres pratiques artistiques. Je fais notamment des colonnes d'eau. C'est une référence, hein, on le sait, à la biologie, hein, peut-être à la paléontologie, à l'étude des profondeurs de l'eau, la colonne d'eau, les animaux dans la colonne d'eau, et aussi des carottes de terre, par analogie avec ce qu'on appelle les carottes au sens, le carottage, hein, au sens où on carotte la terre, voilà, le pergélisol, etc. Donc voilà, je réalise des choses comme ça. Et puis aussi énormément de peinture. J'en ai fait énormément. C'est une tendance générale chez tous les gens de la SF au sens large de pratiquer à la fois l'écriture et une activité plastique. J'ai pas mal d'exemples. Par exemple, je sais pas, Sabrina Calvo, Sylvie Denis. Là, je parle des gens en France. Il y a aussi des Américaines, etc. Je pense à Clovis Maillet qui travaille en binôme avec Louise Hervé. Les deux ont commencé dans la science-fiction et en même temps, lui est aussi essayiste. C'est-à-dire, il y a toujours les deux, je veux dire, dans la science-fiction plastique, hein. Lui, c'est l'inverse. Il a commencé comme plasticien et il a continué comme essayiste. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui se passent en science-fiction et qui font que les arts plastiques sont finalement très proches des activités d'écriture de beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine.
Pour en revenir à toi, la culture de l'imaginaire, comment elle t'est venue? Comment tu aurais pu écrire des romans historiques vu ton profil de formation, tes cours? Comment es-tu arrivé à la science-fiction et la fantasy? Enfin, c'est très difficile. C'est pas, on peut pas t'étiqueter, hein, ça, c'est assez
Non.
extraordinaire. On ne peut pas coller une étiquette sur Yann Larue.
Je dirais, le rêve est tellement ennuyeux quand on voit ce qu'on appelle les littératures blanches, hein, c'est-à-dire ces machins, ces couvertures blanches. Il y en a combien d'intéressants? J'ai toujours comparé ça à une sorte de petit thé léger, quoi, qu'on boit le petit doigt levé à l'anglaise. Ah mon Dieu, un petit bouquin, c'est pas intéressant, ça m'ennuie mortellement, je dors. Alors que tout ce qui est science-fiction ou fantasy ou tous ces genres-là, dit de l'imaginaire, c'est une autre paire de manches, faut bien quand même, faut être honnête. Alors, c'est sûr que tout le monde valorise énormément le circuit de la littérature blanche parce que ça génère beaucoup d'argent, mais ce n'est pas une raison pourquoi il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et c'est dommage de tant nous ennuyer avec tant de romans insipides, quoi. C'est l'insipidité des romans blancs par rapport à la puissance des livres qui ne le sont pas, hein. Ça, c'est un paradoxe. Ça, c'est pareil en littérature de jeunesse quand on y pense. Un livre comme Le Clan des Hauts-Tauris, c'est un chef-d'œuvre absolu. Quoi d'autre? Celui de Philip Pullman, His Dark Materials. Ces romans-là, ils sont exceptionnels. Et à côté de ça, les romans adultes sont parfois là aussi moins bons, quoi. On dirait que la littérature connaît pas sa propre valeur. Enfin, comment dire, on valorise des trucs qui n'ont aucun intérêt et on oublie des choses qui en ont beaucoup. Donc, c'est une sorte de paradoxe ou d'ironie intérieure, hein, si tu veux.
Et tu as commencé à écrire à 11 ans, non? Ah, tu as commencé à peindre à 11 ans. Quand est-ce
Non.
que tu...
Comme tous les enfants, j'ai commencé dès que j'ai su écrire, je sais pas, 8 ans, 9 ans, enfin, je sais pas à partir de quel âge. Alors j'écrivais des histoires horribles de mains coupées, et puis après j'oubliais que mon personnage avait la main coupée, donc le personnage saisissait à deux mains n'importe quoi. Heureusement, j'avais des relectrices qui me disaient attention, là il y a une grave erreur. Et la peinture, oui, j'ai commencé très jeune à peindre, j'adorais ça, et j'ai jamais arrêté de ma vie, quoi. J'ai toujours, toujours, toujours fait de la peinture. J'ai fait des milliers de tableaux, hein, c'est terrible, je ne sais plus où les mettre, c'est clair.
Des milliers, oui, effectivement. Ça prend de
Peut-être
la
pas des
place.
milliers, des centaines, disons des centaines. Voilà, soyons plus honnêtes, des centaines.
D'accord. Avec des milliers d'idées, peut-être.
Ça doit être ça.
Bah, écoute, on va commencer donc. On va commencer donc à parler plus spécifiquement de littérature. Après, enfin, c'est juste pour avoir un déroulé, quoi. Après, on
Oui, d'accord.
parlera de la peinture, bien sûr, et j'aimerais bien après que tu nous dises comment tu travailles en peinture et surtout en comment tu fais pour articuler les moments où tu peins, les moments où tu écris, en ayant un peu un objet qui est peut-être un aboutissement, mais même s'il a eu un sort malheureux, disons, éditorial, puisqu'il n'y a plus d'éditeur, qui est donc une figue, la figuique,
C'est
pardon.
une caractéristique générale, même dans les essais. J'aurais pu écrire un livre intitulé Mes éditeurs, qui aurait été un récit absolument désespérant, quoi. J'en ai un qui est parti en Uruguay ou au Paraguay en emportant la caisse. Il y en a une quantité qui ont décliné, qui ont disparu. Enfin, ça a été. Il y en a un qui m'a traduit en espagnol sans me prévenir. Il y a eu des choses extraordinaires avec mes éditeurs. Heureusement, bon, les femmes sortent du lot, si je puis dire. J'ai eu quand même trois éditrices qui sont vraiment formidables. Mais il y a eu quelques mecs, je ne veux pas jouer les misandres à deux balles, mais il y a eu quand même d'étranges histoires avec l'édition. Il y en a eu un, il n'était même pas éditeur. Il éditait des menus de restaurant, ce n'est pas vraiment édité. Et il n'avait pas d'ISBN et tout ça, mais on s'en est pas aperçu, on était jeunes et naïves. Donc, on croyait que c'était un livre, parce que ça avait l'air d'un livre, mais ce n'était pas un livre, c'était du Canada Dry. Voilà. Donc, bon, voilà mes aventures éditoriales en deux mots. Et c'est vrai que au milieu de tout ça, se distinguent deux ou trois bon, livres qui ont été vraiment des livres. Il y a eu La Vestale du Calix, qui était un roman que j'avais écrit assez bizarrement dans une perspective pédagogique. En fait, j'avais des étudiantes, soit elles étaient passionnées par Sénèque et je ne sais pas, des choses très, très anciennes et la littérature classique, classique, ou au contraire, elles étaient à fond dans la littérature de l'imaginaire, hein, pour cause, et personne ne voulait faire le lien entre les deux. Personne n'arrivait à comprendre que on pouvait retrouver aussi bien, moi, je ne sais pas, Freya, Junon, on pouvait les retrouver transformés complètement dans une littérature de l'imaginaire beaucoup plus contemporaine. Oui, donc La Vestale du Calix, au départ, c'était censé être un roman pédagogique pour mes étudiantes qui n'arrivaient pas à faire le lien entre la littérature dite classique et la littérature de l'imaginaire. Et elles avaient l'impression que c'était deux mondes absolument étanches. Soit c'était littérature savante, soit c'était une littérature qui d'ailleurs, à leurs yeux, était souvent dévalorisée, quoiqu'elles adoraient cette littérature et pourtant, elles ne la valorisaient pas. Donc, ça a été assez facile de montrer d'abord que le corpus, notamment français, de littérature est peuplée de salopards en tout genre, hein, des gens extrêmement sexistes, comme Maupassant, pour prendre cet exemple, des marchands d'armes, des gens qui n'ont pas eu un comportement extrêmement délicat ni très bon dans leur propre vie, et que c'était pas, comment dire, il fallait pas être comme ça dans l'admiration infinie d'un monument, machin, etc. C'est pas ça qu'il faut faire, mais que c'était intéressant peut-être de lier les deux. Donc c'est pourquoi j'ai écrit La Vestale du Calix au départ. Et là, Mireille Rivallon, elle a dit, ah bon, d'accord, mais c'est un roman, c'est un roman d'aventure, c'est un roman de science-fiction, c'est pas du tout, on voit pas du tout que c'est un truc pédagogique. Au départ, ça devait être associé à quelque chose qu'on avait appelé à l'époque avec Anne Besson le livre des Solus et qui n'a pas finalement été finalisé. Ça devait être un livre des Solus où on expliquait l'allusion à Kafka, l'allusion à Rabelais, l'allusion à Esclarmonde, un personnage de la une grande cathare hein, du temps passé, donc des personnages historiques, des éléments de littérature traditionnelle. Que j'estime de valeur hein, par rapport à d'autres, enfin, pour faire un tri au milieu de tous ces trucs. Donc au départ, c'était ça, mais en fait, c'était un roman d'aventure, un roman de science-fiction, un roman de fantasy. C'était une sorte de mélange de tout ça. Donc ce roman, il est arrivé 10 ans trop tôt, il est passé pour une sorte d'ovni, il était queer avant la lettre, et il aurait mieux valu qu'il attende une quinzaine d'années avant d'être publié. Il aurait eu plus de succès. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'en ai écrit un deuxième après, c'était La Fille Geek. Et La Fille Geek, c'est introuvable parce que, comme je te disais, l'éditrice, plus exactement, a arrêté. Enfin, il n'y a pas eu d'autres livres publiés, etc. C'était un journal qui s'appelait Le Vilain Petit Canard, publié par Hélène Morel. Et on publiait sous forme de feuilleton, c'est-à-dire vraiment la grande tradition du feuilleton du 19e siècle, avec les livraisons, voilà. Et puis à la fin, on a fait un bouquin. Et comme on manquait de moyens, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à lui donner vraiment cette dimension graphique qu'on voulait lui donner, parce que ça devait jouer à la fois sur les images, hein, les images y sont, mais jouer aussi sur la couleur des typographies, sur des mises en page. Bon, tout ce projet-là, on n'a pas réussi faute de. Enfin, en fait, pour tout te dire, le gars qui faisait le design en a eu marre et s'est barré de la boîte. Et donc, ça a fini, comment dire, avec les moyens du bord. C'est-à-dire Hélène Morel et moi. Et on n'était pas les reines
De
du
la mise en page et du
design.
design.
Non, c'était une histoire d'Avani, hein, c'est une histoire non pas d'Avatar, mais d'Avani, parce que finalement, bon, c'est sorti un peu de façon bancale, vu qu'on n'avait plus, disons, notre mirifique projet technique de roman graphique n'arrivait pas à être réalisé dans le réel. Donc voilà pour cette espèce de diptyque romanesque.
Alors, si je peux me permettre, en tant qu'ancienne bibliothécaire, ton bibliothécaire,
Oui.
c'est comme pour l'enseignant, bibliothécaire un jour, bibliothécaire toujours. Il y a, bon, il doit être à la Bibliothèque nationale, j'imagine.
Ben, je
Vous avez
pense,
fait un
oui.
dépôt légal, oui. Et
Oh, ben oui.
il est sans doute dans d'autres bibliothèques, peut-être universitaires.
Je pense pas, non, les
Il y a
bibliothèques universitaires.
une Bibliothèque
pauvre.
à Angers qui est spécialisée dans le féminisme. Est-ce que
Oui. Alors, est-ce
peut-être
qu'ils l'ont
faudrait regarder
toujours?
leur catalogue?
Mais moi, je voulais faire un triptyque au départ. Je voulais écrire
Une
suite et fin.
troisième
Mais
partie.
j'ai été un peu découragée par toutes ces aventures. C'est-à-dire, Mireille Rivalon n'aimait pas du tout le deuxième que je lui ai proposé, mais elle n'aimait pas du tout le fait qu'il y ait trois espaces entrelacés. En plus, c'était des espaces très différents dans le temps et dans l'espace. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc, finalement, bon, ben, j'ai pas transformé l'essai. Comme on dit, je me suis arrêtée à la fin de La fille geek. Alors, beaucoup de gens m'ont dit que La fille geek, ça aurait été mieux si ça n'avait pas été un roman graphique, que ça aurait été un roman normal. Donc, ça ouvre des perspectives pour reprendre ça,
Tout à fait.
éventuellement. Oui,
Tout à
et
fait.
pas tenter cette chose nouvelle qui était un roman graphique. C'était trop de complexité. Peut-être tout simplement reprendre la veine romanesque normale, remettre tout dans le bon sens, éviter trop de complications narratives, parce que je pense que ce côté oulipo que je peux avoir parfois, c'est pas là, ça plaît pas toujours au lectorat.
Oui. Surtout le lectorat de, enfin bon, moi je l'aurais lu, hein.
Oui,
Surtout le lectorat
oui.
de qui n'a pas envie de se prendre la tête, comme on dit.
Voilà,
Mais alors,
c'est
si on en parlait un petit peu, parce qu'on tourne autour du pot depuis un moment de ces deux histoires, surtout de la première, la Vestale du Calice. Calix, c'est Calix.
oui, c'est Calix, oui, ça pourrait être autre chose, mais.
Et il y a des petites choses qui, enfin, j'aimerais bien que tu nous expliques. Déjà, on est dans une espèce de monde qui m'a rappelé un petit peu le dernier roman de l'ICAM, Visite, où en fait la société s'est effondrée quelque part. Donc c'était très, tu l'as écrit beaucoup plus tôt que beaucoup d'écrivains finalement. Mais c'est pas la guerre atomique, hein,
Non, mais il est
sauf qu'on
généreux,
en est au bout de
protecteur.
ficelle, la
Rappelle-toi
société.
ton petit Hegel. Tu sais, ce texte qui commence par Messieurs, l'objet de ce livre est l'histoire universelle. Il n'est pas question des femmes, hein, soit dit en passant. Et Hegel raconte comment il y a trois types d'humains. Donc l'aventurier qui se fait brûler, qui se fait finir au bazooka, si j'ose dire. Ensuite, il y en a un qui récupère la chose et qui paraît être le grand novateur. Et ça finit par la queue de la comète où tout le monde fait la même chose que les deux précédents. Donc le premier, eh ben, il faut qu'il saute, quoi. Donc c'est pas mal. Bon, peut-être j'ai été dans cette position d'aventurière, mais au
Tout à
moins
fait.
l'intérêt, c'est que maintenant, on a les romans de Becky Chambers, on a des trucs formidables. Maintenant, les romans queer, c'est admis, à l'époque, c'était pas évident, il fallait se planquer en tant que queer. Hein. Ça a l'air idiot, maintenant, quand on dit ça, on dit, mais c'est pas possible, c'est complètement débile. Eh bien, si, si, il y a eu un moment où être queer n'était pas considéré comme normal, alors que maintenant, tout le monde est queer, n'est-ce pas?
Je ne sais pas,
Non, non, pas trop.
je te laisse la
Pas trop
responsabilité de tes
d'accord.
propos. Après, je ne suis pas sûre que la société soit tellement, excuse-moi.
Oui, c'est parce qu'on vit dans des. Ben justement, c'est ça l'intérêt de la science-fiction et de son milieu aussi. C'est qu'on vit au milieu de gens qui sont en cosplay, au milieu de gens qui écrivent des histoires bizarres, qui portent des surnoms étranges, qui se peignent le corps entièrement avec des plumes de dragon. Il est évident que ça favorise. On est dans un milieu où on est comme un poisson dans l'eau en tant que queer. Alors qu'on ne peut pas dire que dans d'autres domaines, on n'est pas du tout comme un poisson dans l'eau. Hein. Je sais pas, hein. Une société savante spécialiste du 19e siècle, je ne suis pas à l'aise. Hein. C'est-à-dire, c'est ça, l'avantage du milieu
Oui, c'est ça.
de la fan zone, si j'ose dire, de la science-fiction, c'est que chacun y va de sa propre bizarrerie et accepte avec une très grande tranquillité la bizarrerie des autres. Du coup. On se retrouve entre soi et un entre-soi qui est très large, hein, parce qu'il y
Oui.
a il y a toutes sortes de. Mais moi, j'avais des étudiantes qui faisaient du cosplay, d'autres qui écrivaient. Là, je pense à deux étudiantes particulièrement, une autre qui écrivait, Myriam Desjardins, qui écrivait un roman. Il y avait, alors c'est comme c'est son surnom de cosplay, je ne me souviens plus, mais une autre qui faisait du cosplay. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de personnes que la science-fiction, je parle de mes étudiantes, a aidé à se positionner. Par rapport à une obligation, j'allais dire, comme on dit, hétéropatriarcale, enfin, travail, famille, patrie, avoir des enfants, gna gna gna, le rôle de la femme, blablabla, sans que ce soit forcément hétéro d'ailleurs, mais que cette espèce de schéma ne leur convenait pas. Et elles ont trouvé dans tout ce qui était fantasy, science-fiction, cosplay, univers global de fans de science-fiction, elles ont trouvé une alternative qui leur a permis de se construire. Et ça ne leur a pas empêché d'avoir une bonne culture classique grâce à mon roman La Vestale des Calyx, si j'ose dire.
Justement, dans ce qui est aussi étonnant, c'est la géographie.
Géographie.
La géographie de la Vestale du Calyx, et même de la Figuig, finalement. On est en France, mais dans une drôle de France.
Oui, si tu veux, oui.
C'est
C'est vrai
comment tu as construit ça? Parce que les stations de RER qui portent des noms de villes qui sont à 200 km ou presque de Paris, c'est assez étonnant.
ça doit venir des dingos d'acier dans lesquels il y avait l'aéroport de Paris-Londres. Donc, je pense que c'est basé sur une plaisanterie. Je reviens à 1949, hein, Paris est le désert français. C'est-à-dire cette espèce de structuration monstrueuse de la capitale et de son rayonnement ultime, et comment les pauvres villes qui ne sont pas Paris essaient de rayonner comme elles peuvent dans un rayon de 5, 10, 30, 60 km selon leur immensité, mais avec malgré tout cette espèce de trou noir d'aspiration parisienne. Je pense que c'est ça, et l'extension du circuit du RER qui va de plus en plus loin. Qui m'a donné l'idée qu'il n'y avait qu'une grande ville, Neo City, donc, qui était à la fois Londres et Paris, englobant toutes les banlieues, c'est-à-dire Charleville-Mézières d'un
Oui,
côté
ça fait loin, mais bon.
et Rennes de l'autre.
Oui.
Et non, mais comment dire, une espèce de délire de la capitale, de la mégalopole, une sorte. Et la mégalopole qui aspire comme ça tout ce qu'il y a autour et qui est une espèce, et il y a vraiment l'image tentaculaire, la pieuvre, d'ailleurs les stations elles-mêmes et les lignes sont comme une immense pieuvre à 1000 bras. C'est Scylla. Pire encore, comme Scylla dans Charybde et Scylla. Donc une sorte de pieuvre qui s'étend, 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 et ça fait une ville vraiment au sens propre tentaculaire. Donc c'était cette inspiration-là qui m'a aidé quoi, à développer ce genre de géographie. Quant à l'Auvergne, région atroce dans laquelle il y a des bêtes abominables, je pense que c'est parce qu'une partie de ma famille est auvergnate. Et j'ai pas résisté au plaisir de m'en moquer un peu. Je pense que c'est pas plus que ça. Il y a une très belle illustration d'Hélène Morel, justement. L'Auvergne, visiter l'Auvergne, on voit une bête atroce en train de bondir sur l'illustration. Tu l'as pas vue parce qu'on trouve pas le bouquin.
Mais, oui, mais je vais essayer de le trouver. Je finirai bien par le trouver. Et en fait, ton héroïne, parce qu'en fait, il y a deux héroïnes c'est vraiment, il y a un jeu, parce qu'au départ, on a une société qui, alors, mais d'une cruauté extrême avec les femmes,
Ah oui.
particulièrement avec les jeunes femmes. D'ailleurs, on se demande comment elles arrivent à vieillir. Et puis, il y a une espèce de. On ne sait pas si c'est de la science, si c'est de la magie, parce que on est toujours dans des sortes de limbes. On ne sait pas très bien où on est au début. Après, il y a un retournement qu'on ne va pas dire parce que c'est trop drôle. Et après, en fait, cette personne se retrouve dans Neo City. Et
Oui.
là où tu nous décris une société je dirais, qui est un peu. Comment on dit? Pas utopique, juste tout le contraire. Où tout est partagé, où tout est géré, mais où apparemment les gens sont libres, mais finalement il y a des choses terribles qui se passent. Je ne sais pas si.
Tu parles duquel? Tu parles de la figuique?
Non, excuse-moi, je suis dans la Vestale.
Ah oui, dans la Vestale du Calix. Oui, parce que en fait, l'intérêt de la Vestale du Calix, c'est que tout se passe à Paris. Sauf que moi, c'est des superpositions. C'est pour ça que ça m'intéresse les carottes en art.
Oui.
La superposition des couches géologiques, mais même des couches très très anciennes. Par exemple, comment on a découvert que les dinosaures, enfin les dinosaures non aviaires, s'étaient fait plomber sévèrement par un astéroïde, simplement parce qu'il y avait une toute petite ligne dans les épaisseurs de couches comme ça géologiques, c'est ça. Et en fait, moi, c'est comme si j'avais fait une sorte de géologie de Paris dans la Figuig, dans la Vestale du Calix, c'est-à-dire le Paris d'une époque, le Paris d'une autre époque, et tous ces Paris-là qui n'ont aucun rapport naturellement avec la ville actuelle. Parce que la ville actuelle, elle est extrêmement temporaire. Et ça, on peut le voir même en regardant des vieux bouquins du genre Paris en 1914, Paris en 1800 trucs. Mais là, c'est plus que ça. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'une ville, elle peut être mais complètement changée par l'évolution. Alors, c'est peut-être aussi tous ces films de science-fiction un peu terrifiants, comme le premier bouquin d'après Madson, pardon, je prononce mal, Madson, les histoires de vampires abominables, là, où effectivement ils se retrouvent dans une ville qui n'a plus rien d'une ville, il y a de la végétation partout, c'était de jungle. Donc c'est pour ça, c'est comme ça, en superposant des espaces de Paris imaginaires, mais qui ont tous, qui finalement coexistent dans la carotte, dans la carotte. C'est ça l'idée, quoi. Donc c'est vrai que ça crée un effet tout à fait étrange, avec un renversement de fait sur l'idée aussi de passé archéologique qui m'intéresse beaucoup.
Tout à fait, où est le passé, où est le futur? Alors,
Oui.
il y a, il y a aussi cette notion, parce que là, on peut en parler sans spoiler, si on peut dire, du Moyen Âge qui est extraordinaire, une façon de traiter l'histoire, faites la
Alors,
nôtre finalement.
c'est dû. Tu sais à quoi c'est dû? C'est le sexisme des préhistoriens et aussi leur obsession de la religion. C'est-à-dire que dès qu'on trouve un truc, mettons ça, on voit pas la caméra, voilà, un téléphone portable, mais si on trouve ça dans 3000 ans, on dira, ah, oui, c'était un objet religieux qui était l'objet d'un culte. C'est peut-être assez vrai, tu vas dire, hein, que le
Oui,
téléphone
quelque
portable est
part, oui.
l'objet. Mais il y a une espèce, c'est pour ça, mes personnages sont en train de travailler sur le passé et essaient de reconstituer un passé qui est notre présent. Et donc, il y a ce décalage délirant qui fait que la façon dont ils interprètent une poussette de bébé ou n'importe quoi est complètement folle. Parce que, et j'ai vraiment l'impression que la façon dont on interprète, je sais pas, les grottes de Lascaux, par exemple, c'est complètement fou. À tel point que j'avais même proposé une hypothèse en disant, elle n'est ni pire ni plus mauvaise que les autres, elle va juste vous paraître absolument scandaleuse, et pourtant, je veux prouver qu'elle n'est pas forcément valable, mais qu'elle n'est pas pire que les autres. Mon idée, c'est de montrer que les grottes de Lascaux étaient habitées par des enfants, il y a des traces de pas d'enfants qui courent, et que ces grottes, avec les pas d'enfants qui courent, c'est parce qu'on mettait les mômes là bien tranquilles, il faisait 18 degrés dans les grottes, au lieu de moins 30 à la surface, on pouvait congeler son mammouth sans problème particulier de congélateur, et que ça permettait de savoir où sont les gosses. Ils ne pouvaient pas fuir, ils ne pouvaient pas partir n'importe où, se faire bouffer par un tigre à dents de sabre ou que sais-je. Ils étaient bien protégés. Et du coup, ils prenaient des crayons et ils dessinaient sur les murs, comme ont toujours fait les enfants. Et du coup, le fameux homme de Lascaux, l'espèce de bonhomme comme ça, c'est un dessin d'enfant. Il y a des tas de gens qui l'ont dit, mais c'est embêtant, on dirait un dessin d'enfant, alors que Georges Bataille a dit, oui, c'est la vie de l'humain, de l'homme, 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 l'homme. Les gens disent pas l'humain, ils disent l'homme. Bon, voilà. Eh ben non, ça serait aussi juste et aussi faux de raconter cette histoire-là que celle de Bataille, qui est en quelque sorte la version officielle, l'humain, non pas l'humain, l'homme, la religion, la puissance du destin et de la condition humaine, etc., etc. Donc c'est pour en sortir, déboulonner toute cette emphase. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce truc, la Vestale du Calyx. C'est ça l'idée. Voilà.
Oui, mais ça en fait en plus un morceau de littérature. Parce que dans, tu dis, dans, j'ai trouvé une définition du livre disant que c'était une fantaisie burlesque et féministe. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a
Ben,
des
oui,
moments burlesques,
c'est-à-dire
mais il y a des moments
il y a
terribles
beaucoup
dans
de.
ton livre.
C'est vrai d'abord, il y a énormément de parodies. Je ne sais pas si les gens ont vu, il y a une parodie de Céline à un moment. Il y a des parodies, il y avait celle de Céline, il y avait d'autres parodies, je ne me souviens plus trop, mais il y a un jeu d'écriture parodique déjà. Et puis, c'est à la fois super sérieux et en même temps pas du tout. Et puis, c'est effectivement bon. Hein. Comme tu m'as dit déjà, alors, burlesque, oui.
Et
Féministe,
féministe.
évidemment. Évidemment, féministe, oui, hein, forcément. Tiens, voilà Maki, voilà, qui saute sur mes genoux. Oui, donc tu as raison, c'est ça. C'est vraiment une parodie burlesque et féministe, mais en même temps, c'est une vraie histoire. Elle avait
Ah,
raison.
tout à fait, c'est une histoire, et puis
Oui, elle a
il y a
dit,
de la
c'est une vraie histoire.
psychologie. Non, non, il y a une histoire qu'on a envie de savoir ce qui arrive à la personne, il y a des retournements de situation. Et puis, il y a un élément, enfin, un personnage qu'on retrouve dans La fille geek, d'ailleurs aussi, c'est le cheval.
Oui, alors le
Qui
cheval.
est supérieur à l'humain.
Mais
Explique-nous.
oui, mais ce n'est pas parce qu'il est supérieur à l'humain qu'il va essayer de le dominer. Ça, c'est une idée essentielle. Ce n'est pas parce qu'on est supérieur, comme un cheval l'est par rapport à un humain, que le cheval va créer une civilisation écrasante pour écraser les humains. Ce n'est pas la peine. C'est ça l'idée, quoi, que les chevaux sont des êtres qui ont compris que ce n'est pas parce qu'ils étaient effectivement absolument supérieurs qu'ils devaient écraser leurs inférieurs, les humains. Peut-être pour renverser un peu cette figure qui veut qu'on écrase les animaux, qu'on juge nos frères inférieurs. C'était la grande formule du temps jadis, nos frères inférieurs, les animaux. Donc, renverser le rapport humain-animal dans cette perspective-là, je suis tout à fait d'accord.
Alors, je continue. Donc, ah
Oui, et
oui,
un
puis
autre truc sur
aussi,
le
oui,
cheval.
vas-y.
Les gens m'ont reproché de ne pas avoir fait de personnage masculin positif. J'ai répondu, bah, si, il y en a un, c'est le cheval. C'est un personnage hyper positif. Et j'aurais dit, Blanche-Neige, vous trouvez que c'est positif, les personnages féminins? Et une espèce de débilos qui, dès qu'on lui offre une pomme, n'importe qui, elle la mange, elle n'a rien dans le crâne. Il y a eu une dame, dès qu'elle commence à avoir des rides, elle dit, ah, je deviens méchante parce que j'ai des rides. C'est épouvantable. Les personnages de Blanche-Neige féminins sont atroces. Et tout le monde trouve ça très bien. Mais dès qu'il y a un personnage masculin négatif, et ils le sont presque tous dans la Vestale du Calix, à part le cheval, je précise, le cheval Hall, All in Shut. Alors là aussi, All in Shut, c'est des chroniques du temps de Shakespeare, notamment
Oui.
c'est là où il a trouvé, où Shakespeare a trouvé l'intrigue de Macbeth, dans les chroniques de All in Shut. Je trouvais ce nom mais tellement infernal, All in Shut, que j'ai appelé le cheval comme ça. Il a été surnommé Hall, bien sûr, H-O-L. C'est pas Hall, c'est Hall.
Donc, c'est lui le personnage
Masculin
masculin.
positif. Masculin positif.
Positif,
Il
c'est ça.
représente le masculin positif. Oui, c'est ça.
Après, tu as le voyage dans le temps
Oui.
aussi. Ça, c'est SF, mais c'est un peu à tu as croisé finalement la SF et quelque chose qui ressemble à des thèmes de fantasy, bah, le chevalier, enfin la quête, la lutte contre les monstres que la personne doit. Que la personne doit, Hank, elle s'appelle, doit affronter donc le
La
deuxième
vie,
personnage.
c'est la vie, Ankh, c'est le symbole de la vie en Égypte ancienne. Le ou la Ankh, je ne sais pas, cette espèce de symbole qui se fait comme ça, là, hop, et voilà,
Une
une
croix,
croix en
une croix.
C, on dit, c'est ça? Je
Ah,
crois,
je peux
une
pas
croix
te
en C,
dire.
je sais pas, une
Enfin, c'est
croix
un
en
cercle avec une croix
avec une
dessus.
croix en dessous, car rien de chrétien, hein, c'est le symbole égyptien. Oui, donc elle représente la vie, quoi, la vie au milieu des obstacles. Il y a aussi beaucoup de camping. De voyage à pied ou
Dans la nature, oui.
dans la nature et dans des conditions qui sont pas des, enfin il y a pas de véhicule extraordinaire ni de je sais pas, s'il n'y a pas de Spoutnik, pourquoi je dis Spoutnik, il y a pas de soucoupe volante, quoi. C'est pas du tout une science-fiction comme ça. C'est une science-fiction, j'ai un rat de terre, hein. Une science-fiction du camping, on plante ses sardines de camping, voilà. Et d'ailleurs la sardine a un rôle dans
Oui,
le
alors qu'on lui connaît pas.
Et c'est un moment assez amoral aussi, hein. Il y a une sorte de forme foncière d'amoralité dans le roman qui a choqué certains lectorats aussi. Le côté amoral, le côté du triomphe du mal, si je puis dire, du mal MAL,
ML, oui.
je précise.
Parce qu'il y a beaucoup de il y a des personnages tragiques et puis il y a des moments qui sont un peu insoutenables, surtout quand on dans le monde des Vestales
Ah oui, alors dans
où
le
ça
monde des Vestales,
fouette, tout ça.
ben ça c'est vraiment, oui, c'est les ingénieurs de recherche. Ça c'est une allusion peut-être. C'est peut-être une expérience vécue. Avant de devenir professeur d'université, on passe par d'infinies fourches caudines. On est à terre, c'est-à-dire plus bas que terre, donc ATER.
Ah
On est payé, écrasé, etc. Je me souviens, mon inspecteur des impôts qui disait, mais c'est pas possible, vous dépensez plus de 3/4 de votre salaire pour votre travail. Ben oui, c'est comme ça, c'était passage obligé. On payait tout, hein, on était dans un état terrible. Et donc, peut-être c'est une allusion à toutes ces fourches caudines, mais enfin, les Vestales subissent un traitement extrêmement violent, qui est aussi à prendre sur un mode ironique. Ça, c'est pas facile. Il y en a qui ont pris ça au premier degré. Et assez curieusement, j'ai eu un lectorat de filles de 14 ans. Je me rappelle quand je leur vendais le bouquin, je leur disais, vous êtes sûres, là, quand même, vous êtes jeunes? Elles disaient, oui, je suis absolument sûre. Elles voulaient lire ce livre plein de viols, de violences, d'actes amoraux,
D'injustice.
oui, d'injustice, de sacrifices volontaires, de chair à pâté, de chair à canon. Ça n'a pas l'air drôle hein, quand j'en parle comme ça, mais pourtant le roman il est infiniment drôle. Hein. C'est pas
C'est
du
pour ça que c'est très. C'est. Comment dire? Je sais pas comment dire ça. Tu ris et puis après tu ris plus du tout et puis après tu.
Tu de nouveau.
Le lecteur est quand même bien secoué lui aussi hein,
Oui, c'est
dans
fait pour.
le... Mais ce qui j'ai trouvé positif par contre, déjà c'est la fin de la Vestale du
Oui.
Calyx, et c'est que quand même ces mondes un peu étranges, parfois complètement ubuesques, peuvent s'améliorer et bouger
Et c'est un roman qui finit bien.
à partir
Et
de
ça,
la base, oui.
oui. Et on m'a dit, c'est extrêmement rare. Un roman de SF qui finit bien, c'est pas fréquent. Et c'est pas facile parce que c'est peut-être plus facile d'être tragique que tragicomique en fait, voire complètement comique finalement quand on y pense. Mais tragicomique, c'est la position la plus dure, je crois. C'est celle que j'ai expérimentée, j'ai bien aimé faire ça, mais il est évident que ça ne peut que bien finir parce que sinon ça n'ira pas. Et donc le second roman reprend des éléments du premier, mais c'est pas indispensable d'avoir lu les deux. Il reprend un élément lié à une plaisanterie de ma part sur les chercheurs qui vont dans des endroits paradisiaques passer 15 jours paradisiaques. Donc là, c'est une sorte de référence interne, si on veut, mais il n'est absolument pas nécessaire d'avoir lu le premier pour attaquer le deuxième, même si un personnage s'y retrouve. Les autres s'y retrouvent peu, mais on retrouve quand même quelques personnages dans le second. Et il devait y avoir un troisième bouquin, il devait y en avoir un troisième, que du coup, je n'ai pas écrit par découragement, parce que j'ai senti que du point de vue éditorial, ça ne pouvait pas aller. Et puis, ma
Ouais.
foi, les temps ont changé, enfin, les choses sont évoluées autrement. Donc, j'ai jamais écrit de troisième tome, en fin de compte. Mais pas grave.
Et du coup, on va passer maintenant à la peinture,
D'accord.
finir l'émission, parce que j'aimerais que tu me dises, en fait, j'ai quelques questions. Alors après, la peinture... On peut aller sur enfin avant, excuse-moi, avant, on trouve peut-être plus très facilement la fille geek, mais on trouve toujours chez la Talente la Vestale du Calyx.
Non,
J'ai
il est là.
vérifié. Il y est
C'est vrai,
plus?
il est encore.
Je l'ai trouvé sur leur site
Ah bon, d'accord, oui, donc il y a
et on
encore.
pouvait le commander.
Bon, bah, ça
En
veut
tout cas,
dire
le
qu'il en...
site de la Talente. Donc.
Ah bon, très bien. Je ne savais pas, j'avais peur qu'il soit parti dans les limbes, mais non,
Bah
tu es
écoute,
la
c'est
preuve
bien un éditeur qui garde les livres, c'est
Oui,
parfait.
mais ça c'est un truc merveilleux en science-fiction. Même si pendant 10 ans, t'écris rien, on t'oublie pas. Alors que t'inquiète pas que dans les autres domaines, tu es broyé comme un déchet nucléaire. Supposé qu'on broie les déchets nucléaires.
Mais déchets nucléaires, ça c'est indestructible, on a
Non,
compris ça.
non, non, c'est pas ça. Mauvaise métaphore.
Oui. Comme un déchet recyclable. Mais bon, faut pas exagérer.
Mais t'es broyé, quoi. T'es broyé comme au broyeur. Enfin, ça va vite, hein. Ça tourne très très vite, hein, les essais, les écritures et tout. Dès qu'on a écrit un livre, il s'oublie très très rapidement. Mais en SF, non, il y a une espèce de conservation du corpus. C'est pour ça ce que tu viens de dire, sur le fait que ce roman qui a été écrit, je dirais en 2010 ou 2011, un truc comme ça.
2011, 2011,
2011, oui, c'est
oui.
ça, c'est pas tout jeune, et
Ouais,
pourtant,
2011, oui.
il est encore présent. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que même les gens qui sont morts sont encore présents, on lit encore leurs œuvres, il y a une continuité, une congruence, je dirais presque, qui n'y a pas du tout dans d'autres domaines de l'écriture ou de la pensée.
Donc, quel est... pour toi, on en a déjà un peu parlé en début d'émission, le lien que tu fais entre le fait de peindre et d'écrire, est-ce que ce sont des démarches semblables? Est-ce elles découlent l'une de l'autre? Et puis surtout, quelle est l'inspiration? Parce que quand on voit les titres, là, par exemple, les tableaux, la bleue, qui sont à Nice et qu'on
Oui.
reverra encore à Nice Fiction au mois de début juin, ce sont des tableaux qui s'inspirent un peu peut-être pas de la science-fiction elle-même, mais quand même un petit peu, non?
Énormément. Si, si, énormément. C'est-à-dire, en fait, ça devient un rêve cosmique. Pour moi, il y a une vraie continuité entre l'écriture et la peinture, parce que c'est une autre façon. C'est arrivé, enfin, comment dire, Clausewitz disait que la guerre et la négociation continuaient par d'autres moyens. Bon, moi j'ai l'impression que la peinture, c'est la littérature de l'imaginaire continuée par d'autres moyens. Et la preuve pour moi, c'est que je ne suis vraiment pas la seule en science-fiction à pratiquer cette espèce de. Ça va ensemble, quoi. Cette espèce de double activité d'art plastique et d'écriture. Les deux sont étroitement liés, particulièrement en science-fiction. Donc effectivement, les tableaux bleus dont tu parles, c'était pour l'exposition bleue. Je l'avais centré sur un grand tableau qui s'appelait Vous êtes ici et qui indiquait avec une flèche Pikaia, notre ancêtre, une sorte de petit ver comme ça, un ancêtre infini de l'humain, même avant le poisson qui a été notre ancêtre aussi, le sarcoptérygien, un poisson, c'est pas un terme très très précis, enfin peu importe. Et donc du coup, il y a une sorte de pensée quand même de l'archéologie et du cosmos. Ça fait très très la collection Bordeaux de l'imaginaire du cosmos et des civilisations disparues, les collections un peu Matin des magiciens, hein, qui ont eu de l'importance pour moi dans ma jeunesse. Tous ces livres-là, qui étaient à couverture Bordeaux et or, et qui traitaient des mystères de l'île de Pâques, du mystère du continent disparu, qu'y a-t-il sous les pyramides, la face cachée de la lune, que sais-je, quoi. Cette espèce de fantasme scientifique rêveur a eu beaucoup d'importance, je crois, dans la création de la science-fiction contemporaine. Ça en joue énormément encore. Et de fait, je crois que la collection bleue, enfin pas la collection, l'exposition bleue qui avait eu lieu l'année dernière à Nice Fiction, ça traduisait vraiment ça. C'est-à-dire que tout en bleu, j'avais aussi repris Douglas Adams avec son personnage Aléa, qui à la fin ne sait plus qui elle est, où elle est, la petite terrienne perdue, et qui tire sur tout le monde avec un énorme bazooka ou l'équivalent. J'ai repris comme ça des
Tu
histoires.
cites le guide du voyageur
Le guide
galactique.
du voyageur
Oui, d'accord.
galactique, à qui l'imbécile de guide du routard a refusé que ça s'appelle guide du routard galactique, alors que c'était bien évidemment la meilleure traduction. Et au départ, rappelons-nous que nos deux héros
Oui.
Et malheureusement, tombe dans un vaisseau Dogon, pas de chance pour eux. Mais bon, ils s'en tirent quand même. Mais bon, c'était vraiment, comment dire, ce fond de science-fiction qui m'inspirait. Et même là, j'ai fait une série récente sur Mars, qui s'appelle N'y allez pas.
Et
C'est le
parle-nous
titre.
d'elle, donc c'est sur lequel tu travailles en ce moment-là.
Oui, c'est ça. Donc, c'est des espèces de figurations à la fois fantastiques et un peu scientifiques de Mars. Quelle lumière on voit sur Mars, les couchers de soleil bleus de Mars, la poussière continuelle qui est jaune et pas vraiment rouge, plutôt jaune, marron, parfois grise, et qui tourne dans une atmosphère extrêmement raréfiée. J'ai lu pas mal de bouquins du genre Habiter sur Mars, écrits par une spécialiste scientifique du truc, des tas de romans de science-fiction du genre The Martian, enfin Seul sur Mars, Mars Contact, Contact sur Mars, nanana, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la. Bon, tout ça, ça crée
Les
une espèce.
classiques, là, oui.
Oui, ben ça crée un compost, si j'ose dire, une espèce d'humus sur lequel j'ai élaboré les peintures, quoi, qui représentent, sans la représenter du tout, une Mars totalement imaginaire. Et j'ai fait aussi des colonnes
Oui.
avec Mars. J'ai eu énormément de mal à faire la Terre martienne avec du béton modelé. Il a fallu mettre dessus de la laque pour le faire tenir, ensuite de la peinture, ensuite il a fallu vernir plusieurs fois, des tonnes de fois, pour qu'enfin cette Terre martienne tienne. Bon, tout ça, évidemment, c'est de l'imaginaire, hein. On n'est
Bien
pas dans la.
sûr,
Mais je pense qu'il y a vraiment une continuité des intérêts qu'on peut avoir en science-fiction, en science, en connaissance, disons, vulgarisée de la science, celle qu'on a en général quand on n'est pas spécialiste des sciences, et l'écriture même de la science-fiction. D'ailleurs, la science-fiction, c'est pas pour rien qu'il y a science, quoi. Et cette science, d'ailleurs, n'est pas toujours une science dure au sens la physique et les maths, ça peut être aussi la biologie. Mais d'autres sciences comme ça, c'est une science, hein. Les gens ont l'air d'oublier que la science, que la biologie, l'éthologie, etc., tout ça, c'est des sciences. Ben oui. Et du coup, il y a toute une branche de la science-fiction qui m'intéresse particulièrement, qui joue justement sur ça, où il y a des plantes, où il y a des... Donc tout ça, à mon avis, est extrêmement lié. Et je pense que ce n'est pas par hasard que beaucoup d'écrivains ou écrivaines de science-fiction se consacrent, au bout d'un moment, à des activités artistiques afférentes. Ou non, d'ailleurs, peut-être non afférentes, mais quand même. J'ai l'impression que c'est assez lié.
Et pourquoi n'y allez pas?
Alors, peut-être parce que c'était aux imagi non, aux Utopiales. Il y avait cette fille, Florence Portel, qui était candidate pour aller sur Mars.
Ah,
Et
d'accord.
elle avait fait une présentation. Alors, bon, peut-être était-ce simplement un coup de pub, hein, je ne sais pas. Mais c'était assez frappant, cette idée qu'on pouvait aller sur Mars, alors que manifestement, on ne pouvait pas y aller. C'était pas possible dans l'état actuel des choses. Et donc, la série, le titre a amusé les gens qui ont dit, ta série nous donne envie d'y aller, au contraire, sur Mars. Donc, le but n'a pas été très... Mais c'est vrai, c'est le problème. Aller ou ne pas aller sur Mars, doit-on dépenser tant d'argent pour un but aussi dangereux, inutile peut-être? Quel intérêt à savoir qu'il y a de la vie sur Mars? Là aussi, on tombe aussi dans des... Il y a toujours aussi ce problème du poncif, du préjugé. Les gens croient que la vie, ça vient de l'eau. Mais parce que nous, on est plein d'eau, hein, ça c'est clair. Mais est-ce que ça viendrait pas du feu? Moi, je me rappelle un documentaire dans lequel deux types, extrêmement courageux par ailleurs, des chercheurs, étaient descendus dans je ne sais pas quel volcan, au péril de leur vie, hein, pour
Ah
récupérer des
oui,
bactéries
ça.
nées du feu. Et tout le monde regarde les fumeurs noirs dans la mer, en disant, ah, les fumeurs noires, c'est l'eau et le feu, mais c'est surtout le feu, mon Dieu, les fumeurs noires. Et toutes ces bêtes qui vivent du feu, on peut se demander s'il y a pas, si on n'a pas un préjugé de l'eau dans la naissance de la vie, et qu'il serait intéressant de voir s'il n'y aurait pas un peu de feu aussi, beaucoup plus qu'on croit, peut-être mélange eau et feu. Je pense aux périodes très anciennes, l'Achéen, des choses comme ça, enfin, les périodes de création de Mars et de la Terre, qui sont créées à peu près au même moment, même complètement au même moment. C'est peut-être cette espèce de sentiment que si on avait moins de préjugés, on arriverait à trouver plus facilement la vie sur Mars. Là, par exemple, ils n'ont pas eu l'idée pour l'instant d'aller sous Terre, ou plutôt sous Mars. Alors que bien évidemment, s'il y a de la vie sur Mars, elle est sous Mars. Elle ne peut pas être ailleurs. Il y a des radiations abominables, etc. Mais il y a quand même des grottes, des tas de trucs dans les profondeurs. Alors on est là à contempler le mont, je ne sais plus quoi, qui fait 22 km de haut. Il doit s'appeler Olympe, hein, tel que je ne me souviens plus. Bon, le gros, gros, gros truc.
Olympus Mons, oui,
Oui,
c'est
Olympus Mons, évidemment, il s'appelle Olympe. Alors, en plus, c'est cette espèce de poids de la culture grecque. Enfin, il y en a d'autres des cultures, quoi. Je sais pas, là, on retrouve toute la bêtise contre laquelle peut s'exercer la critique de notre façon de voir, de concevoir les choses. C'est-à-dire que le mépris absolu de toutes les cultures qui sont pas grecques, la Grèce comme source absolue de toute culture, le mépris total de tout, quoi, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, de tout ce qu'on peut imaginer, et la centration, espèce d'image du scientifique que dénonce la philosophe Donna Haraway. Elle dit, le scientifique, c'est un mâle blanc, et donc les femmes noires, les hommes noirs et les femmes blanches n'ont plus qu'à aller se rhabiller. Elle est furieuse en disant ça, mais ça correspond quand même à une certaine forme de vérité, et du coup, on ne peut pas avancer. Tant qu'on est comme ça, soumis aux préjugés des mâles blancs, on n'en sortira pas. On ne trouvera jamais la vie sous Mars. On la cherchera sur Mars et on n'en trouvera pas dessous. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, je pense qu'il y a des vrais enjeux, à la fois sociétaux à la peinture qui traite de Mars, par exemple, ou enfin, je veux dire, à l'art et à la littérature surtout. À la littérature, je pense, eh bien, écoute, tu parlais de l'ICAM tout à l'heure. La question des IA, la question du fonctionnement autonome des IA par rapport au groupe d'avant qui seraient les humains, tout ça, je pense que c'est vraiment, bon, je pense surtout à elle là précisément, mais il y a d'autres possibilités. C'est-à-dire, la science-fiction, c'est pas rien, c'est pas uniquement un truc pour se distraire, c'est beaucoup plus profond, ça en a l'air, et beaucoup plus engagée dans des enjeux de société et de critique des préjugés sur lesquels fonctionne notre société. C'est pour ça, c'est ça l'essence du féminisme au sens large.
Oui, parce
Féminisme.
qu'effectivement, la science-fiction, si on, surtout dans la science-fiction que je dirais classique, ancienne,
Oui.
celle qu'on a appelée de papa,
Oui.
c'est quand même, il y a aussi une charge idéologique. C'est
Ah
aussi
ben
un
oui.
modèle politique et idéologique qui n'est pas forcément celui auquel. C'est pour ça qu'aussi la science-fiction française est très intéressante, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de. C'est un vrai laboratoire. Moi, je vois, avec cette émission, chaque fois que je rencontre un écrivain, c'est une autre fenêtre qui s'ouvre et c'est toujours très
Oui,
étonnant.
bien d'accord, oui, parce qu'effectivement, il y a cette. Moi, je pense que les gens de la science-fiction, au sens large, et de la fantasy, ils sont des espèces de rebelles contre l'esprit courant, quoi. Ce qu'on appelle hétéropatriarcat, c'est réducteur. C'est-à-dire modèle sociétal, ron-ron, plon-plon, papa, tout ce que tu as dit, quoi. Ron-plon-plon, raplapla, quoi. Cette espèce de modèle ronronnant qui se reproduit, ah ben oui, les choses sont comme ça, infiniment. Moi, je crois vraiment qu'il y a dans chaque auteur-autrice de science-fiction et de fantasy une sorte de cellule rebelle qui en a assez de toutes ces platitudes, quoi, qu'on n'arrête pas de nous seriner comme le modèle idéal de la vie humaine. Et que c'est pour ça qu'il y a un vrai pouvoir de subversion profonde. Ce n'est pas la révolution, ce n'est pas ça. C'est une sorte de subversion intérieure, une rébellion contre. Et cet ordre établi, ça peut aller de des impasses. Ça va, c'est toutes les impasses, quoi. C'est les impasses culturelles, les impasses sociétales aussi. Donc c'est, et les impasses de la pensée, quoi. Ce qui fait qu'on continue à enseigner Maupassant aux mômes en France. Peut-être c'est bien parce que ça génère la rébellion, quoi. C'est-à-dire une fille qui lit un soir de Maupassant, elle se dit, mon Dieu, mais c'est pas possible ce monde-là, il faut que j'écrive de la science-fiction, c'est pas possible, on va pas tenir comme ça.
Est-ce que toi, tu l'as fait?
Oui, moi je pense j'ai été assommée de culture affreuse et ça m'a beaucoup aidée paradoxalement à la renvoyer aux gémonies. Oui, je suis bien d'accord.
Alors, je voudrais aussi, on arrive un peu au bout, une chose
Oui.
dont on n'a pas parlé, parce que c'est une question que je pose systématiquement, tu as écrit des nouvelles. Tu as
Oui.
une qui s'appelle Quand arriva la fin du monde en fin de matinée de chez dans la
La
fin,
décade de
la
l'imaginaire.
décade de l'imaginaire chez La Talente.
Oui.
C'était la première fois que je lis une nouvelle comme ça. C'est génial. Ça se passe dans un EHPAD. Tu peux nous en parler?
Oui. Alors, ça se passe dans un EHPAD, et puis il y a la petite, c'est peut-être une maison de retraite plus qu'un EHPAD, parce qu'elle a
Oui,
quand
parce
même toute
que.
sa tête, notre
Voilà, puis elle
héroïne.
est autonome quand même.
Elle est très autonome, et donc c'est basé sur. C'est une sorte de décalque, finalement, de. Alors là, comment ça s'appelle? L'histoire où on brûle. Les pompiers sont des brûleurs, et on brûle les livres, mais c'est hyper connu, le
Adoré
titre.
Bradbury, Fahrenheit,
Oui,
oui.
voilà. C'est ça. Fahrenheit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on perd en perdant tout, les livres, etc. Et là, en gros, c'est des gens qui sont allés à la bibliothèque, les gens
Oui.
de l'EHPAD, enfin de la maison de retraite, et qui ont ramené des bouquins, et il va plus rester que ça, parce que tout a cramé. Et alors, tout crame, mais bon, notre héroïne, elle dit, oh là là, ça va pas du tout, là, puis elle continue à lire ses bouquins. Et après, elle va rencontrer un gamin qui, lui aussi, a pas voulu partir avec tout le groupe, et ils vont reconstituer à deux une espèce une nouvelle aventure humaine. C'est ça l'idée, quoi. Il y en a peut-être d'autres comme eux partout dans ce monde dévasté. Donc, c'est une dévastation extrêmement tranquille, normale, où elle continue sa petite vie de retraitée, où elle va chercher ses sardines et le linge et tout. Enfin, il y a une espèce de comment dire, c'est l'apocalypse au quotidien. Voilà.
Voilà,
Le
c'est ça,
titre s'appelle
c'est ça.
L'apocalypse au quotidien. Voilà. Le quotidien de l'apocalypse. Et c'est assez. Enfin, finalement, qu'est-ce que c'est que l'apocalypse? C'est pas forcément des grands déchaînements hollywoodiens. C'est peut-être un truc très plomb-plomb comme ça qui arrive petit à petit au milieu des petites activités humaines normales. Et qui se fait très, très, très progressivement. Ça colle bien avec l'hypothèse actuelle de la température qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Je sais pas combien on va avoir aux Jeux Olympiques cette année, mais ça va pas être drôle.
Ouais, ben enfin.
On verra.
Et donc, tu as aussi Tu as aussi publié chez nous, au Vagabond du rêve, dans
Oui,
deux
beaucoup.
anthos, donc La tête du hibou de Civil dans Civilisation et Tu ne tueras qu'une fois dans Rouge. Et je voulais te demander, donc
Oui,
toutes ces nouvelles, on les trouve hein, encore, elles sont
j'en ai fait
encore.
beaucoup. Hein, je ne sais même pas combien j'en ai fait, mais au Vagabond du rêve, il y a ces deux-là, il y en a même d'autres. J'en ai écrit
Sans
beaucoup.
doute. Et c'était pour te demander, quand tu écris une nouvelle et un roman, est-ce que tu as une approche différente? Est-ce que tu écris autrement? Pourquoi tu écris une nouvelle?
Là,
Indépendamment
j'en
du
ai.
fait de répondre à un appel à texte, bien sûr.
Oui. Mais parce que les appels à texte, ils sont souvent construits, au Vagabond du rêve, de façon extrêmement ouverte. Et notamment la série Rouge, ça peut être ce qu'on veut. Donc, c'est extrêmement libre. J'ai essayé aussi celle qui s'appelle Éternellement Sérénissime, c'est dans Venise, dans le rêve, l'anthologie qui rêve de Venise. Sur Venise, et puis aussi sur la justice, enfin, je sais plus, il y en a eu d'autres. Mais c'est-à-dire, parfois, les appels à texte des Vagabonds du rêve, ils ont ceci de très, très séduisant, qu'ils sont à la fois titillants, si j'ose dire, et extrêmement ouverts. C'est pas du tout un appel à texte du style parler de la tasse et de son anse, quoi. Il n'y a pas ce côté très, très, très sérieux. Là, moi, ça me bloque complètement. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal publié de nouvelles au Vagabond du rêve, parce que les appels à texte étaient extrêmement stimulants. Je dirais, c'est vraiment ça, le truc. Voilà.
Oui, ça représente Hélène Marchetto qui.
Ça représente tout Hélène
Qu'est-ce que
Marcoux.
vous allez imaginer avec ce que je vous propose?
Voilà. Oui, c'est ça. Comme si Hélène tendait un bout de viande au bout d'un bâton aux carnivores que nous sommes, et du coup elle regardait avec un certain amusement, en fait, et avec un esprit de distance très amusé, comment on allait interpréter le thème, à la fois très stimulant et très général qu'elle nous donnait, comme typiquement rouge, rouge, effectivement, et même bleu pour l'exposition
Oui.
de peinture, et pas seulement de peinture, exposition d'illustration, de peinture, de création graphique, etc. Bleu. Et débrouille-toi avec ça. C'est
Ah
ça.
oui, c'est Hélène.
Et voilà, non, mais c'est
Ouais.
très, très stimulant.
Et en fait, quand tu écris donc des nouvelles, quel est le travail que tu fais en fait en
C'est
tant
ça.
que rédactrice, quoi?
En fait, une nouvelle, ça tourne autour d'une idée principale. Et ça, c'est, moi, je crois, hein, c'est-à-dire, il y a une idée centrale autour de laquelle, et l'idée, elle peut venir n'importe quand, sur n'importe quoi. D'un seul coup, il y a une bizarrerie du monde. C'est comme si la structure du monde qu'on nous offre, il y avait une faille, tout d'un coup, un point bizarre. Et c'est à partir de là que, je crois, se cristallise l'esprit de la nouvelle. Après, la nouvelle, elle vient toute seule. Mais il y a un élément de bizarrerie, quelque chose qui griffe la surface plane du monde, comment dire, orange délavé, hein, le monde qui nous entoure, le monde plat, le monde très plat et très ennuyeux qui nous entoure. D'un seul coup, il y a une petite griffe, et là, on peut s'enfuir derrière la petite griffe. Enfin, tu m'as compris, c'est pas très
Oui.
clair. On peut se précipiter dans la faille, disons.
Et arriver en quelques pages finalement
À changer de monde, oui,
à voilà.
pas à changer le monde, mais à changer de monde.
Deux mondes.
Moi, je suis pas là pour changer le monde, mais pour changer de monde. Qu'on soit pas toujours dans ce monde, somme toute assez épouvantable, et qu'on puisse se balader ailleurs. C'est le principe de base de l'évasion, peut-être.
Voilà, bah écoute, on arrive au bout de notre
Je
échange.
crois.
On va se retrouver
Oui, en
à
vrai.
Nice Fiction en juin, donc comme ça à
Donc,
Nice même. Comme
c'est
ça,
du
on
6
pourra.
au 9, hein, c'est bien ça, du 6 au 9
C'est
juin.
oui, voilà, c'est ça, c'est non, le 7, 8, 9. Le
7,
9
8, 9,
étant
oui.
le dimanche, voilà.
C'est ça,
Donc,
oui.
on se retrouve là-bas et puis on pourra échanger encore.
Moi, je serai là tout le temps. J'arrive
Et
le
ben.
6 et je repars le lundi. Donc, je ne sais plus quel jour c'est exactement.
Bah écoute, ça
Donc,
nous fait
bon, j'ai hâte
plaisir
de te
de.
retrouver ainsi que les autres personnes qui
Oui,
seront.
on t'attend avec impatience en tout cas.
Moi aussi, je suis contente de te voir en vrai. Et je te
Et
remercie
puis,
pour l'interview.
je t'en prie, en tout cas, c'était un plaisir. Donc, je rappelle que la Vestale du Calix est toujours disponible chez La Talente, que tes autres livres sont toujours disponibles, entre
Oui,
autres le livre Libère-toi, cyborg, dont on parlera à
oui.
Nice d'ailleurs, parce que
Oui.
qui est chez Cambourakis et qui est récent. Il vient de sortir en
Oui.
poche en 2022.
Oui.
Et voilà. Et puis, bien sûr, toute ta peinture,
Il y
on
a
aura
aussi
l'occasion de
un
voir
autre.
quelques petites choses.
J'aime bien citer un autre livre qui semble introuvable, mais qui ne l'est pas. C'est aux éditions X, I, Y, un I, un petit I, un grand X et un petit E. C'est donc le féminin de l'inconnu X, qui rappelle un peu la tombe au soldat inconnu et encore plus inconnu, sa femme. C'est Auristel Bonis qui fait l'édition et j'ai écrit Dis papa, c'était quoi le patriarcat?
Ah
Point
oui.
d'interrogation. Donc un titre là aussi fort ironique dans cette et j'ai aussi écrit le livre sur les dinosaures rêve-t-elle d'Hollywood et maintenant elle me dit
Oui.
bon je rêve pas du tout voilà donc sur la représentation des dinosaures la question centrale étant pourquoi on représente toujours le Tyrannosaurus Rex la bouche grande ouverte petit tyrannosaure là
Voilà le
Donc, si vous
Tyrannosaurex.
intéressez à la réponse, c'est dans ce bouquin publié chez X.
D'accord, on va aller le
Voilà.
voir alors, le lire.
Merci beaucoup en tout cas pour tout. Et puis,
Ben,
donc, à bientôt.
merci de ce bel échange et puis à très bientôt. Alors, et puis
À bientôt.
surtout, lisez Yann Larue. Ah, par contre, si, juste un petit détail, c'est
Oui.
que beaucoup de tes ouvrages sont parus sous Anne Larue
Oui, c'était mon
pour les
prénom.
trouver. Voilà.
Officiel. Alors c'est et j'ai changé de prénom officiellement. Donc mon prénom c'est Yann maintenant, mais à l'époque c'était Anne. Toujours un problème hein, d'être non binaire et de changer de prénom à un moment. Mais c'est amusant parce que Yann ça fait masculin et en fait je suis genré au féminin, c'est-à-dire mon pronom c'est elle, she, Elia, etc. Et, mais il y a une surprise, un effet de surprise entre le Yann masculin et la réalité d'une fille. Donc ça clique, ça et là. Que se crée comment dire, le choc électrique du non-binaire. Voilà.
D'accord. En tout cas,
Pour le
merci
dire très
beaucoup.
simplement. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Yann, et
Merci
puis
beaucoup.
à très bientôt. Au
À
revoir.
bientôt, Dounia, encore merci.
Je t'en prie, au revoir.